Pasiphaé contracta un mariage. Il y avait longtemps qu'elle y travaillait, assise sur les genoux de mon père et ronronnant qu'elle mourait d'envie de porter les enfants d'un bon seigneur. Mon frère Persès avait été mis à contribution pour l'aider, levant son gobelet afin de trinquer à sa nubilité à chaque repas. « Minos !» annonça mon père de sa banquette. « Fils de Zeus et roi de Crète !»« Un mortel ?» Ma mère se redressa. « Tu avais parlé d'un dieu. »« J'avais dit qu'il serait fils de Zeus, éternel, et c'est bien le cas. » Persès persifla. « Simple prophétie. Peut-il mourir ou non ?» Un éclair dans la pièce, aussi brûlant que le cœur d'un feu. « Assez !» tempêta mon père. « Minos régnera sur toutes les âmes mortelles dans l'au-delà. Son nom se perpétuera à travers les siècles. L'accord est conclu. » Ni mon frère ni ma mère n'osèrent ajouter mot. Le regard d'Aétès croisa le mien et j'entendis ses pensées comme s'il les énonçait à haute voix. « Tu vois, ce n'est pas une raison suffisante. » Je m'attendais à ce que ma sœur pleure d'être ainsi rétrogradée, mais en l'observant un peu, je vis qu'elle souriait. J'étais incapable de déterminer ce que ce sourire signifiait. Mon esprit suivait une autre piste. Une rougeur avait envahi ma peau. Si Minos était là, sa famille serait également présente, sa cour, ses conseillers, ses vassaux et ses astronomes, ses échansons, ses serviteurs et leurs sous-fifres, toutes ces créatures pour lesquelles Prométhée avait abandonné son éternité. Des mortels. Le jour du mariage, mon père nous fit passer au-dessus de la mer dans son char doré. La cérémonie devait avoir lieu en Crète, dans l'imposant palais de Minos à Knossos. Les murs avaient été replâtrés de frais, toutes les surfaces étaient couvertes de fleurs de couleurs vives et les tapisseries éclataient des plus riches teintures au safran. Les titans n'étaient pas les seuls à avoir été conviés. Le roi de Crète était un fils de Zeus et tous ses lèche-bottes d'Olympiens devaient également venir présenter leurs hommages. Les longues colonnades se remplirent très vite de dieux en pleine gloire, qui agitaient bruyamment leurs parures, riant et jetant des coups d'œil autour d'eux pour voir qui d'autre avait été invité. Le plus gros attroupement gravitait autour de mon père, et des immortels de toutes sortes se bousculaient pour le féliciter de cette brillante alliance. Mes oncles étaient particulièrement satisfaits. Il était peu probable que Zeus prenne position contre nous tant que ce mariage durerait. Sous son dais de cérémonie, Pasiphaé resplendissait, tel un fruit mûr. Sa peau était dorée, ses cheveux de la couleur du soleil sur le bronze poli. Autour d'elle se pressait une centaine de nymphes serviles, toutes plus désireuses les unes que les autres de la complimenter sur sa beauté. Je restai en retrait, hors de la foule. Des titans passèrent devant moi. Ma tante Sélénée, mon oncle Nérée, traînant des algues derrière lui, Mnémosyne, la mère des souvenirs, et ses neuf filles aux pieds légers. Mes yeux parcoururent l'assistance, inquisiteur. Je les trouvai enfin, au coin de la salle. Un attroupement de silhouettes floues, aux têtes penchées les unes contre les autres. Prométhée m'avait dit qu'ils étaient tous différents, mais je ne distinguais qu'une foule d'individus interchangeables, avec la même peau terne et transpirante, les mêmes robes froissées. Je m'approchai. Leurs cheveux longs et mous pendaient, leur chair molle ballottait sur leurs os. Je tentai de m'imaginer allant les trouver, touchant ces peaux mourantes de ma main. Cette pensée me fit frissonner. À ce stade, j'avais entendu les histoires que murmuraient mes cousines au sujet de ce qu'ils pouvaient faire aux nymphes qu'ils surprenaient seuls. Les viols et les enlèvements, les mauvais traitements. Je trouvais tout cela difficile à croire. Ils paraissaient aussi inoffensifs que des pleurotes. Ils gardaient la tête soigneusement baissée, loin de toutes ces divinités. Après tout, les mortels avaient leurs propres histoires à raconter au sujet du sort de ceux qui se mêlaient aux dieux. Un coup d'œil malencontreux, un pied posé au mauvais endroit, appelaient virtuellement la mort et la désolation sur leur famille durant des dizaines de générations. C'était comme une immense chaîne de la terreur, pensais-je. Zeus au sommet, et mon père juste derrière. Puis les frères, sœurs et enfants de Zeus, mes oncles, et ainsi de suite, en descendant les rangs des dieux fleuves et des seigneurs de l'eau salée, des furies, des vents et des grâces, jusqu'au bout où nous nous trouvions, les nymphes comme les mortels, chacun surveillant l'autre. La main d'Aétès se referma sur mon bras. Pas extraordinaire comme spectacle, n'est-ce pas? Viens, j'ai trouvé les Olympiens. Je le suivis, mon sang battant fort dans mes artères. Je n'avais encore jamais vu une seule de ces divinités qui règnent depuis leur trône céleste. Aétès m'entraîna jusqu'à une fenêtre donnant sur une cour baignée de soleil. Et ils étaient là. Apollon, seigneur à la lyre et à l'arc étincelant. Sa jumelle, la lunaire Artémis, impitoyable chasseresse. Héphaïstos, le forgeron des dieux, qui avait fabriqué les chaînes de Prométhée. Le menaçant Poséidon, dont le trident commande les vagues. Et Déméter, déesse de l'opulence, alimentant toutes les récoltes du monde. Je les détaillais. Ils se mouvaient avec aisance, sûrs de leur pouvoir. L'air même semblait céder sous leurs pas. « Tu vois Athéna ? » chuchotai-je. J'avais toujours aimé les histoires concernant cette guerrière aux yeux gris, déesse de la sagesse, à l'esprit plus vif que l'éclair. Cependant, elle n'était pas là. Peut-être, suggéra Aétès, était-elle trop fière pour se retrouver coude à coude avec ces terriens de titans. Peut-être était-elle trop sage pour prodiguer des compliments, seule au milieu de la foule. Ou peut-être était-elle bien là, mais cachée, même des divinités. Comme elle faisait partie des Olympiens les plus puissants, elle en avait la capacité et pouvait observer les courants des pouvoirs et écouter nos secrets. Mon cou se couvrit de chair de poule à cette idée. Crois-tu qu'elle nous écoute en ce moment même? Ne sois pas bête. Elle est là pour les dieux majeurs. Tiens, voilà Minos. Minos, roi de Crète, fils de Zeus et d'une mortelle. Un demi-dieu, c'est ainsi que l'on appelait ses semblables, eux-mêmes mortels mais bénis par leur ascendance divine. Il dominait ses conseillers de loin, ses cheveux épais pareils à des broussailles enchevêtrées, le torse incroyablement large. Ses yeux me rappelèrent les salles d'obsidienne du palais de mon père, brillant d'un éclat sombre sous sa couronne dorée. Néanmoins, quand il posa sa main sur le bras délicat de ma sœur, il ressembla soudain à un arbre en hiver, nu et rabougri. Il le savait, je crois, car il jetait des regards noirs autour de lui, ce qui faisait rayonner ma sœur encore davantage. Elle allait être heureuse ici, pensais-je, ou éminente, ce qui revenait pour elle au même. « Là !» chuchota Aétès en se penchant tout contre mon oreille. Il désignait l'un des mortels, que je n'avais pas remarqué et qui n'avait pas l'échine tout à fait aussi courbée que les autres. Il était jeune, le crâne rasé à l'égyptienne et la peau de son visage s'arrangeait confortablement autour de ses rides. Quant à ses yeux clairs, ils n'étaient pas alourdis par le vin comme ceux du reste de l'assistance. « Bien sûr qu'il te plaît, » commenta Aétès. « C'est Dédale. » L'une des merveilles du monde mortel, un artisan qui est presque l'égal d'un dieu. Quand je serai moi-même roi, je collectionnerai aussi les splendeurs de ce genre. Oh, et quand seras-tu roi? Bientôt. Père va me donner un royaume. Je crus qu'il plaisantait. Et pourrais-je y vivre? Non, il n'appartient qu'à moi. Si tu veux le tien, il te faudra l'obtenir toi-même. Son bras avait beau être passé à l'intérieur du mien, comme toujours, soudain tout fut différent. Sa voix s'échappant brusquement comme si nous étions deux créatures attachées à des cordes séparées et non l'une à l'autre. « Quand ? » croassai-je. « Après la fête. Père a prévu de m'y emmener directement. » Il fit cette déclaration d'un ton suggérant qu'il ne s'agissait que d'un point mineur. J'avais l'impression d'être en train de me transformer en pierre. Je m'accrochai à lui. « Comment as-tu pu ne rien me dire ? » protestai-je. « Tu ne peux pas me quitter. Que vais-je faire ? Tu ne sais pas comment c'était avant. » Il écarta mes mains de son cou. « Inutile de faire une scène de ce genre. Tu savais que ça arriverait. Je ne peux pas pourrir sous terre toute ma vie en ne possédant rien en mon nom. » Et moi, avais-je envie de demander, « Je vais pourrir ?» Mais il s'était détourné pour parler à l'un de mes oncles, et, dès que les mariés eurent pénétré dans leur chambre nuptiale, il alla se poster sur le char de mon père. Après quoi, il disparut dans un tourbillon doré. Persès partit quelques jours plus tard. Personne n'en fut surpris. Il devait trouver les salles du palais bien vides sans ma sœur. Il annonça qu'il allait vers l'Est, vivre parmi les Persans. « Leur nom est semblable au mien, » ajouta-t-il. « Et j'ai entendu dire qu'ils élèvent des créatures appelées démons. J'aimerais bien en avoir une. » Mon père fronça les sourcils. Il avait pris Persès en grippe depuis qu'il s'était moqué de lui à propos de Minos. « Pourquoi devrait-il avoir des démons, plus que nous ?» Persès ne se fatigua pas à répondre. Il passerait à travers l'eau et n'avait pas besoin de mon père pour le transporter. « Au moins, je n'aurai plus jamais à entendre ta voix !» furent ses dernières paroles à mon attention. Ainsi, en quelques jours, ma vie s'était délitée. J'étais redevenue une enfant, attendant tandis que mon père conduisait son char et que ma mère se prélassait sur les berges du fleuve d'Océan. Je m'allongeais dans les salles vides, la gorge serrée de solitude, et quand cela devenait insupportable, je m'enfuyais pour rejoindre Aétès en pensée le long de mon ancienne grève déserte. Là, je retrouvais les pierres que ses doigts avaient touchées. Je foulais le sable que ses pieds avaient retourné. Bien sûr qu'il ne pouvait pas rester. C'était un fils divin d'Hélios, vif et éclatant, intelligent, au verbe juste, et qui nourrissait l'espoir d'obtenir un trône. Et moi ? Je me remémorais ses yeux au moment où je l'avais supplié. Comme je le connaissais bien, j'étais capable de déchiffrer ce qu'ils exprimaient quand ils me regardaient. Pas une raison suffisante. Je restais assise sur les rochers en repensant aux histoires de nymphes qui pleuraient jusqu'à se changer en pierre ou en oiseaux jacasseurs, en bêtes stupides ou en arbrisseaux, condamnées à aboyer leurs pensées pour l'éternité. Apparemment, je n'en étais même pas capable. Ma vie se refermait sur moi, tels des murs en granit. J'aurais dû adresser la parole à ces mortels, songeais-je. J'aurais pu les supplier de me trouver un mari. En tant que fille d'Hélios, un de ces miséreux aurait sûrement voulu de moi. Tout était préférable à ma situation. Et c'est alors que je vis le bateau.